Bonjour et bienvenue sur le pod. Pendant une petite demi-heure, nous allons échanger sur les problématiques de nos métiers en tant que community manager et social media manager. Notre objectif, partager ensemble nos réflexions sur un sujet, nos avis et nos pratiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de la fin des cookies tiers. Qu'est-ce que c'est exactement et où est-ce que l'on en est sur ce sujet ? Comment faire pour mettre à jour nos pratiques et comment analyser les performances de nos actions si on ne peut plus rien traquer ? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen, bonjour à toutes et tous qui nous écoutez.
Tu vas bien ?
Ça va. Écoute, j'ai passé de super vacances, donc je suis...
Sur les chapeaux de roue pour la rentrée.
Ah ouais, eh ouais, carrément. Et toi aussi ?
Ah carrément. Gonflé à bloc pour cette dernière ligne droite avant la fin de l'année.
Ouais, bon, super.
Alors du coup, pour cet épisode de rentrée, pour ce 35e épisode, nous allons parler d'un sujet un peu coton quand même.
Ouais, on peut le dire.
Les cookies, et non, je ne parle pas de pâtisserie, mais des cookies tiers qui ont été donc mis à mal en 2018 avec l'arrivée de la RGPD et qui sont voués à disparaître dans les années à venir, en tout cas ce qu'on entend dire. Donc, c'est pas sans conséquence pour notre travail et notamment pour la partie publicitaire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Ouais, ça marche.
C'est parti.
Ouais, allons-y.
Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi on parle exactement quand je parle de cookies tiers, de RGPD et le contexte un peu dans lequel on est actuellement ?
Ouais. Alors, le point que je veux dire, c'est que faut pas avoir peur du sujet. On en parle souvent chez nous à l'agence. Souvent, quand tu prononces le mot cookie, c'est comme quand tu prononces le mot business manager. Il y a beaucoup de personnes, pas chez nous, mais chez nos clients, qui prennent peur et qui se ferment sur le sujet.
Tu vois, alors, c'est pire, même peut-être.
Bah, voilà, c'est trop technique, c'est pas pour moi, je veux pas entendre parler. Bon, il faut dépassionner un peu le truc, parce que ça, quand même, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. On va en parler, c'est l'objet d'ailleurs du podcast d'aujourd'hui. Donc, ne prenez pas peur, on va essayer de rendre ça assez simple. On va vraiment le simplifier au maximum. Et surtout, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que ce qu'on va vous dire, c'est pas forcément des recettes toutes prêtes. D'ailleurs, c'est marrant de parler de recettes quand on parle de cookies. On va essayer de vous donner surtout des pistes de réflexion pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. D'abord, c'est quoi un cookie ? Bon, un cookie, c'est un tout petit fichier qui vient se poser sur ton ordinateur quand tu visites un site web. Voilà. Et puis ça te permet, par exemple, quand tu reviens sur ce site, ça permet à l'éditeur du site de savoir que tu es déjà venu. Bon, c'est ça un peu l'usage principal du cookie. Ici, on parle des cookies tiers, qui ne sont pas la même chose que les cookies internes. Donc il y a des cookies internes, des cookies tiers. Un cookie interne, c'est un cookie qui est généré par le site qu'on visite. Tu vois, par exemple, tu visites le site de West Digital. West Digital va utiliser un cookie propre à West Digital pour, par exemple, faire la mesure d'audience. Ou par exemple garder ta configuration de langue si tu es sur un site avec plusieurs langues. Voilà. Mmh. Et tu as aussi après derrière des cookies tiers, qu'on appelle aussi souvent dans le langage technique des cookies third party, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui eux sont des cookies qui ne sont pas déposés par l'éditeur du site, donc par exemple pas par West Digital, mais qui sont déposés par un autre site. Je te donne un exemple. Imaginons que demain, tu ailles sur le site du blog du modérateur lire un article de blog. Voilà. Tu le lis. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le blog du modérateur va déposer plusieurs cookies, dont un qui va lui servir à savoir que tu es venu sur le site plus pour de la mesure d'audience, hein, pour mesurer combien de personnes viennent lire leurs articles. Ça, c'est un cookie interne. Enfin, sauf si j'utilise Analytics, mais bon, c'est un autre sujet.
Oui.
Et tu as aussi des cookies tiers qui peuvent être déposés, par exemple le cookie utilisé par le pixel Meta, le pixel Facebook, qui va leur permettre par exemple de te recibler derrière. Ce pixel, il est déposé non pas par le blog du modérateur, mais il est déposé par Facebook En fait, c'est quand on installe le petit bout de code du pixel meta, ça va générer une action qui va déposer un cookie, mais qui est créé par Facebook et qui est suivi et utilisé par Facebook. Il n'est pas suivi et utilisé par le blog du modérateur. Okay. C'est simple, un cookie tiers, c'est un cookie qui n'est pas édité par le site que tu visites.
Mais c'est quand même toi, en tant qu'éditeur de site, qui décide de l'installer sur ton site.
D'installer l'action de le déposer, oui. Mais par contre, après, il est géré par Facebook.
Donc, du coup, le pixel Facebook que tu ajoutes dans le code de ton site, ça, c'est toi qui décides de le faire.
Oui, tout à fait. Ça, c'est par contre, c'est toi qui le décides. Facebook ne va pas décider pour toi. C'est toi qui fais cette démarche, généralement, pour faire de la publicité derrière, améliorer le ciblage, etc. Voilà, donc c'est ça un cookie tiers, c'est vraiment un cookie qui est déposé par un autre site, un autre éditeur finalement que le site initial, le site lui-même. Bon, ça permet de comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière. Alors, c'est quoi le contexte ? Déjà, il faut savoir que depuis plusieurs années, avec la montée des outils de blocage de la publicité, ce qu'on appelle les adblockers, les cookies tiers, fonctionne de moins en moins, parce que une personne qui bloque par exemple les publicités quand il visite un site web, donc c'est l'internaute qui décide quand il visite un site web, quand il visite par exemple le site du Monde, de ne pas voir les publicités déposées sur le site du Monde, ça a un impact depuis plusieurs années sur les cookies tiers, parce que ça va empêcher la dépose d'un cookie tiers sur ton ordinateur. Donc déjà depuis plusieurs années ça pouvait avoir un impact sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, il y a eu le RGPD en 2018, où dans le RGPD, il y a eu un principe, on va simplifier, hein, je ne rentre pas dans les détails et tout ça, mais il y a un principe clé, c'est quelqu'un qui va avoir des cookies déposés sur son ordinateur, il doit au préalable donner son consentement explicite. Donc il doit, de manière explicite, accepter que des cookies tiers soient déposés sur son ordinateur. Donc, tu vois, par exemple, on parlait du blog du modérateur, le cookie déposé par Facebook, tu dois au préalable l'accepter. Tu dois accepter, en fait, de pouvoir être
traqué.
Mmh. C'est une bonne nouvelle pour la vie privée. Mmh. Mais du coup, la conséquence, c'est que tu dois l'accepter. Donc, tout le monde n'accepte pas les cookies. D'ailleurs, il y a une étude de la CNIL qui est intéressante, qui est sortie là en 2023, qui montre qu'il y a à peu près 40% des internautes en 2022, pardon, qui refusent les cookies, enfin tous les cookies, et à peu près la moitié, la moitié qui vont en accepter certains mais pas d'autres. Donc en gros, aujourd'hui, c'est quoi le contexte ? C'est il y a à peu près un internaute sur deux que tu ne vas pas pouvoir suivre via des cookies tiers, notamment que tu utilises pour faire de la publicité. C'est ça le sujet qui nous intéresse. Et donc, ça va poser un problème, parce que du coup, si tu veux faire du reciblage, des audiences similaires des visiteurs de ton site, tu vas avoir en théorie qu'une personne sur deux qui aura accepté les cookies. Puis ça va poser d'autres problèmes, on en reviendra sur la mesure des ventes, etc. Parce que bien sûr, si la personne n'accepte pas les cookies, tu ne peux pas savoir si elle est allée jusqu'au bout, par exemple, sur une boutique pour acheter un produit sur ton site. Tu en as un sur deux, en fait. Voilà, et puis... Il y a un autre sujet, c'est que les cookies tiers aussi sont plus fonctionnels dans les navigateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui utilise Safari ou Firefox, de base, il n'y a plus de cookies tiers. Et ça va arriver sur Google Chrome aussi. Donc ça veut dire que dans les années à venir, en fait, on devra faire sans cookies tiers. Voilà. Donc on est un peu à un virage, quoi. Okay. C'est ça la problématique aujourd'hui qui nous intéresse.
Alors justement, dis-nous précisément quels sont les problèmes que ça engendre en fait.
Alors ça va surtout engendrer des problèmes pour les marques qui font de la publicité sur les réseaux sociaux et qui utilisent...
Donc de plus en plus.
Voilà, quasiment tout aujourd'hui. Et qui utilisent des balises pour déclencher la dépose d'un cookie tiers sur l'ordinateur des internautes. Une balise, c'est quoi ? C'est le pixel meta, l'inside tag LinkedIn, qu'on appelle aussi le pixel LinkedIn, même si c'est un abus de langage, tu vas avoir la même chose sur TikTok, sur Pinterest, etc. Donc du coup, ça concerne quand même beaucoup, beaucoup de marques. À partir du moment où tu vas utiliser un pixel pour du coup, déposer un cookie, tu vas avoir une problématique. Il y a trois problèmes en gros, qui vont se poser avec cette histoire de cookie tiers. Le premier, c'est que du coup, si tu bases une partie de ton ciblage sur les données collectées via le cookie tiers, tu vas avoir une baisse de la qualité de ton ciblage. Je te donne un exemple. Si une partie de ton ciblage est composée d'audiences similaires, ce qu'on appelle des lookalikes, et que tu crées une audience similaire des visiteurs de ton site web. Donc, j'édite le blog du modérateur ou keepitsimple.fr. Et moi, quand je fais de la pub dans LinkedIn ou dans Facebook, je crée une audience similaire de mes visiteurs en me basant sur les visiteurs de mon propre site. Forcément, je vais avoir moins de données puisque j'en ai à peu près 1 sur 2 qui acceptent les cookies. Et donc, quand Facebook ou LinkedIn va créer une audience similaire de mes visiteurs, il va créer une audience similaire de 50% de mes visiteurs. Donc du coup, tu vas avoir un ciblage qui va être un peu moins bon quand tu vas faire des audiences similaires. Puis tu vas aussi avoir un ciblage qui sera moins bon quand tu vas faire des audiences de remarketing, quand tu vas recibler par exemple les visiteurs de ton site. Parce que forcément, tu vas recibler qu'une partie de tes visiteurs. Donc ça pose déjà un problème au niveau du ciblage. Alors, ça a posé aussi un deuxième problème, c'est au niveau de la diffusion de la publicité par l'algorithme. L'algorithme à la fois de TikTok, de Facebook, de LinkedIn, parce qu'en fait, quand tu configures une pub, tu vas configurer ta pub et tu vas donner l'objectif que tu attends derrière. Exemple, je suis sur Instagram, je configure une pub pour vendre des glaces aux personnes qui vont voir la publicité. Ça, c'est mon objectif, c'est je veux faire des ventes. Imaginons que du coup, tes ventes se fassent sur le site web de ton client. Facebook va diffuser la publicité aux personnes qui sont les plus promptes à acheter des glaces et va surtout optimiser la diffusion auprès des personnes qui ont un comportement d'achat pour les personnes qui achèteraient des glaces. Le problème, c'est que du coup, il y a peut-être des personnes qui vont aller acheter une glace sur le site web de ton client, mais tu vas en avoir à peu près 50%. Qui vont accepter les cookies, et donc il y a à peu près 50% des données qui vont remonter à Facebook, à Meta, et donc à Instagram. Et donc l'algorithme, lui, il ne va voir que 50% de tes ventes. Et sauf que lui, pour améliorer la qualité de sa diffusion, il a besoin d'avoir suffisamment de données. Tu vois, il a besoin d'avoir à peu près 50 ventes par semaine pour améliorer la diffusion. Donc si déjà de base, il n'y en a que 50% qui remontent, forcément, derrière, tu vas avoir un algorithme qui ne va pas avoir assez de matière pour optimiser la diffusion. Donc ça, c'est quand même un autre problème. Tu as un autre problème aussi au niveau de la diffusion, c'est que si par exemple tu fais des campagnes de trafic et que toi, tu as demandé à Meta ou à LinkedIn d'optimiser la diffusion pour que les gens arrivent sur ta page, ce qu'on appelle une optimisation par page vue, du coup, forcément, l'algo, lui, il ne saura que les personnes qui sont arrivées sur ta page mais qui ont accepté les cookies. Donc si tu fais une optimisation par page vue, pareil, tu vas avoir que 50% à peu près de tes données qui vont remonter. Alors que si tu fais une optimisation par clic sur ta publicité, là du coup l'algo, lui, il sait le nombre de personnes qui ont cliqué sur la pub et donc il va plutôt optimiser pour faire en sorte que les gens cliquent sur la pub et après qu'ils aillent sur ton site ou pas, il n'en sait rien et c'est pas l'objectif.
Okay.
Et puis après, tu as un troisième problème, c'est celui-là le plus gros, c'est que du coup ton tracking, il est parcellaire.
Ouais.
Parce qu'en fait, du coup, tu n'as qu'une partie des personnes qui vont accepter les cookies et donc toutes les données remontent moins bien dans ton outil qui permet de faire ta publicité, donc dans ton business manager sur Meta ou sur LinkedIn, par exemple. Donc du coup, t'as toutes tes ventes, tout ton trafic remonte moins dans LinkedIn et dans Meta. Donc toi, quand tu te connectes, tu dis tiens, hier, j'ai fait que 10 ventes sur le site de mon client. Mais en fait, c'est peut-être pas 10, c'est peut-être 20, 25, 30, mais
oui.
Tu peux pas avoir le nombre total puisque de toute façon, pour avoir ce nombre-là, il faut que les gens aient au préalable et accepté les cookies. Donc, tu as un tracking qui est parcellaire. Et puis, ça va poser un problème sur le tracking. C'est que tu vois, si tu veux faire des campagnes ou de vente où tu veux exclure les gens qui ont déjà acheté quelque chose, tu peux plus les exclure puisque tu ne sais pas s'ils ont acheté. Vu que tu ne sais s'ils ont acheté que s'ils ont accepté les cookies.
Oui, puis... Quand même, tu le sais, tu ne le sais que pour une partie.
Ben voilà, donc c'est très problématique aujourd'hui pour gérer des campagnes. Alors, inutile de dire que du coup, les marques qui font de la pub elles-mêmes Parfois, elle galère à comprendre le principe même d'un business manager et l'intérêt pour elle d'en avoir un qui est bien configuré. Parfois, elles ont du mal à comprendre ce qu'est le pixel. Mais alors là, inutile de te dire que du coup, toutes les marques ne sont déjà pas à l'aise avec ces concepts-là, BM, pixel, etc. Voilà, là, ça va encore plus loin parce que suivre les ventes, etc., comprendre que les données sont parcellaires, tout ça, ça peut vite devenir compliqué si tu fais ça un peu à côté de ton job, quoi. Enfin, tu vois, en plus d'animer ta page, tu fais quelques pubs, ouais. Tu connais pas grand-chose. Là, bon, de dire que c'est un peu la jungle, quoi. Bon, je veux pas faire peur, mais voilà. Il faut retenir que du coup, toutes les données ne remontent pas et donc que tu as une vue parcellaire, que tes audiences sont moins bonnes. Et que du coup, par conséquent, l'outil que tu utilises, l'algorithme, enfin la plateforme que tu utilises, l'algorithme LinkedIn, Meta, TikTok, etc., s'il n'y a pas assez de données, il ne va pas arriver à optimiser ta campagne. Et donc, du coup, tu vas avoir des coûts qui vont augmenter.
Ok.
Voilà, c'est ça les trois problèmes qui se posent. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Pas avoir peur, c'est bien d'en être conscient.
Ok. Donc, maintenant qu'on a en tête les problèmes que ça pose, on va voir comment faire pour surmonter ces problèmes, hein, parce qu'on va pas rester quand même sur des problèmes.
Non, voilà. Il y a pas de problème, il y a que des solutions.
Voilà, exactement. Donc comment on peut faire pour mettre à jour nos pratiques, nos façons de faire?
Alors, déjà, je pense qu'il faut de plus en plus s'écarter du principe de dire je vais recibler et faire des audiences similaires sur les visiteurs de mon site web. Tu peux continuer à le faire, mais faut partir du principe que ce ciblage-là, il y sera moins pertinent.
Et qu'à terme, il existera même
peut-être
plus.
Et qu'à terme, en plus, il existera probablement plus. Donc ça, il faut presque un peu faire le deuil de ça. Mais alors, du coup, c'est un peu dommage parce que c'est quand même bien pratique, tu vois, de cibler les visiteurs de son site ou de faire des audiences similaires sur les visiteurs de son site. Parce que, bah, en fait, s'ils sont venus sur ton site, c'est qu'ils s'intéressent à ton produit.
Oui.
Pour contourner ça, c'est un truc qu'on fait de plus en plus chez nous. On va se recentrer sur des publicités qu'on appelle on-platform. Bon, c'est le terme technique. Mm-hmm. C'est des publicités qui sont natives, c'est-à-dire des pubs qui se consomment directement sur Facebook, LinkedIn, TikTok. Un exemple, on va plutôt que de, par exemple, de faire une pub pour inciter les gens à aller visiter un site web pour découvrir un produit, on va plutôt faire une pub où, en vidéo, on va présenter le produit et la vidéo, elle se consomme directement sur Facebook.
Ouais.
On va faire la même chose sur LinkedIn, par exemple. On va présenter un produit dans une image ou un carrousel sans qu'il y ait besoin d'aller sur le site web. C'est quoi la logique qu'il y a derrière? C'est que du coup, Facebook, LinkedIn, eux, ils savent qu'ils regardent la vidéo ou qu'ils regardent le carrousel. Et donc après, on va pouvoir faire un reciblage des personnes qui ont regardé la vidéo ou le carrousel ou faire des audiences similaires sur cette base d'audience. Donc on va un peu revenir sur des contenus qui se consomment sur la plateforme. C'est d'ailleurs une logique qu'on retrouve beaucoup dans la partie réseaux sociaux organiques, où on va de plus en plus inciter des marques à créer des contenus dits natifs qui se consomment directement sur la plateforme. Donc finalement, pub, que ce soit la pub ou l'organique, on est un peu dans la même logique aujourd'hui. On fait rester l'internaute sur le réseau social. Ça, c'est le premier truc qu'on peut faire, toi, c'est d'essayer de se dire on va arrêter la partie site web, on va l'utiliser plus tard, un peu plus tard. Il y a un deuxième truc, on a beaucoup ces dernières années, on s'est un peu écarté du ciblage démographique. Tu sais, le fameux ciblage où tu rentres tes critères d'âge, de sexe, de centre d'intérêt, de lieu de résidence, etc. Parce que ça fonctionnait un peu moins bien et on se basait beaucoup sur les audiences similaires. Les audiences similaires de visiteurs du site web ou des gens qui ont acheté, parce que bah, du coup, c'était ça la puissance de l'algorithme, c'était d'aller chercher des audiences qui ressemblent à celles qui achètent ou qui visitent un site. Bah là, je pense qu'en fait, on va revenir un peu au ciblage démographique. On va se dire, bah, on va faire des audiences assez, les plus larges possibles, tu vois, juste avec âge, sexe, lieu de résidence, pas forcément de centre d'intérêt, et on va laisser les régies sociales optimiser la diffusion pour aller chercher les meilleures audiences. Donc on va revenir un peu au ciblage démographique. Il y a un autre truc aussi qu'on peut faire, c'est quand tu vas configurer une pub, si tu te rends compte que tu n'as pas assez de ventes sur ton site web avec des gens qui ont accepté des cookies. Et du coup, par conséquent, la plateforme que tu utilises, pour reprendre l'exemple d'Instagram, n'a pas assez d'événements qui remontent. Et donc, elle ne sort pas de la phase d'apprentissage, donc elle a du mal à optimiser ta campagne pour aller chercher d'autres personnes qui vont acheter ton produit. c'est un truc qu'on fait beaucoup, c'est qu'au lieu de faire un objectif de conversion, on va remonter d'un niveau dans le tunnel de conversion et on va faire plutôt un objectif de page vue d'une boutique, par exemple, pour avoir un peu plus de monde dans les personnes qui ont atteint l'objectif qu'on a fixé à la plateforme, et essayer d'élargir un peu plus le ciblage pour optimiser la diffusion. Ça, c'est un truc aussi qu'on fait de plus en plus. On va remonter d'un niveau. Oui. J'ai eu le cas, là, je crois que c'était avec Marlène, où on avait un client où elle me dit, j'ai pas assez de monde, en fait, qui ont rempli un formulaire. Donc, du coup, plutôt que d'essayer de faire remplir un formulaire sur le site du client, on est remonté d'un niveau. Et on est plutôt allé sur... on va aller cibler des personnes qui peuvent visiter la page du programme de l'événement dont on faisait la promotion.
Oui.
Voilà, c'est un moyen d'essayer de contourner un peu le problème. Donc ça, c'est au niveau du ciblage. C'est trois pistes qui peuvent être intéressantes. Le contenu on-platform, purement natif, le ciblage des mots et parfois remonter d'un niveau dans le tunnel de conversion quand on n'a pas assez d'événements qui remontent et qui permettent d'optimiser la campagne.
Ok. Et alors, du coup, sur l'après, sur la partie analyse, comment on fait pour analyser ces performances si finalement c'est compliqué de traquer ?
C'est une bonne question parce que du coup, là, on a parlé du ciblage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le ciblage malgré ce problème de cookies ? Et effectivement, il y a la question de l'analyse en fait. Parce que du coup, même si tu fais ce qu'on a dit là, tu vois, du contenu en plateforme, etc., toujours est-il que si tu fais des campagnes de trafic et de conversion, tu vas quand même avoir la donnée qui remonte, elle va être parcellaire. En fait, tu n'auras pas la vision complète de ce que tu as fait. Il y a aujourd'hui, en gros, dans ce que nous, on identifie, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité que je vais dire assez simple et une possibilité assez poussée. Je vais commencer par la plus simple. La première chose, c'est plutôt que de mesurer les performances de ces campagnes avec les actions qui sont réalisées sur ton site web via la régie sociale. Donc, toi, de regarder dans Meta ou dans LinkedIn le nombre de personnes qui ont téléchargé quelque chose ou acheté un produit. On va plutôt regarder ça sur l'outil d'analyse de site web. Puisque finalement, l'action, elle se réalise sur le site web. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise de plus en plus un outil comme Matomo, qui est une alternative à Google Analytics. L'intérêt de Matomo, c'est que tu es exempté du consentement de l'utilisateur au cookie, parce qu'en fait, c'est un cookie qui est 100% utilisé pour la mesure d'audience, qui est 100% anonyme. Donc du coup, tu n'as pas besoin de demander le consentement de l'utilisateur pour suivre ce qu'il va réaliser. De toute façon, on ne sait pas qui c'est. C'est 100% anonyme, tu n'as pas l'adresse IP, etc. Et du coup, la logique, c'est de plutôt utiliser un outil comme ça, comme donc Matomo, qui va te permettre de suivre tout ce qui se passe sur ton site web et donc toutes les actions qui sont réalisées sur ton site web. Et donc, plutôt que de regarder les performances au niveau de ta régie sociale, tu vas regarder plutôt les performances au niveau de ton outil d'analytics. On commence à faire le test chez nous avec certains clients et même pour nos propres besoins. Et c'est vrai que Matomo, c'est quand même hyper bien parce que tout remonte. Mmh. Donc, quelqu'un qui remplit un formulaire, qui va acheter quelque chose, ça remonte dans Matomo. Et donc,
tu ne pourras pas le re-cibler, mais au moins, tu as tes chiffres de mesure. Quoi.
C'est ça, exactement. Donc, on sait aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui arrive de Facebook, on ne sait pas, on pourrait savoir de quelle pub, en fonction du tracking quand même, mais passons sur ce détail-là. Mais on sait dans Matomo qu'on va avoir X personnes qui ont rempli un formulaire, X personnes qui ont acheté un produit en provenance de Facebook, en provenance de LinkedIn, en provenance de telle campagne. Et donc, au lieu de regarder les chiffres dans Meta, dans LinkedIn, dans TikTok, dans Pinterest, etc., on va regarder les chiffres dans Matomo. Je ne parle pas de Google Analytics 4 parce que y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'aujourd'hui, il est en conformité avec le RGPD. Moi, je n'ai pas vu d'annonce officielle de la CNIL sur le sujet. Donc, pour l'instant, je ne me prononce pas là-dessus. Et de toute façon, nous, aujourd'hui, on est dans une logique où on bascule tout sur Matomo parce que c'est 100% compliant et pour le coup, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, la première logique, c'est ça, c'est d'utiliser plutôt Matomo pour faire remonter la donnée, finalement, dans l'outil d'analytics et regarder plutôt cette donnée-là et pas la donnée qui est dans la régie sociale.
Après, ça peut être intéressant de comparer ce que tu vois sur les plateformes comme Meta ou autres avec les résultats que tu as sur Matomo pour te rendre compte de la perte d'infos que tu as du coup sur les plateformes.
Carrément, tu as totalement raison. D'ailleurs, On le faisait même un peu avant tous ces sujets-là, entre le trafic que t'annonçait Facebook, tu sais, quand tu as un clic sur un lien, et puis le trafic réellement enregistré par Analytics. Et déjà là, on avait un écart assez important. Bon, bah là, inutile de te dire que maintenant, c'est encore plus important.
Ouais.
Donc voilà, moi, je serais. La première solution serait plutôt ça, c'est de regarder la donnée dans son outil d'analytics qui est conforme à RGPD et qui exempte la petite pop-up d'acceptation des cookies. Bon, je parle de Matomo parce que c'est celui qu'on connaît, il y en a plein d'autres, hein, des outils. Il y a Abla, il y a un autre outil, j'ai plus le nom, qui permet de faire la même chose. Bon, toujours est-il que ça, c'est, je pense, un sujet sur lequel on peut se pencher. Alors, si on est social media manager, c'est pas généralement nous qui gérons ce sujet-là. C'est plutôt la personne qui est traffic manager ou la personne qui a développé le site web. Je pense que ça peut valoir le coup de se rapprocher des personnes qui gèrent le site web pour peut-être avoir une solution qui te permet de faire remonter la donnée dans l'outil d'analyse. Ça, c'est le premier point. C'est le plus simple. Le deuxième, alors c'est un point que j'ai d'une conférence que j'ai suivie au Web Island à Nantes là, en avril, ce qu'on appelle le server side. Bon, je passais les détails techniques parce que c'est assez complexe et pour être très honnête, moi-même, je n'ai pas compris totalement toute la manière concrète de le mettre en place. Mais en gros, le server side, ça consiste à faire remonter toutes les données sur la régie sociale, donc toutes les données de vente directement dans Meta, LinkedIn, Instagram, Pinterest, etc. Les données, elles remontent plus par, enfin, pas que par le pixel, elles vont remonter aussi par l'API conversion. Donc il y a un travail, tu vois, pour configurer l'API conversion et faire en sorte que la donnée, elle remonte malgré cette histoire de cookie tiers, etc. Ça, je pense que c'est plutôt pour des boîtes qui font énormément de e-commerce, voire quasiment exclusivement du e-commerce. Donc qui font tout leur CA uniquement avec une boutique en ligne. Pourquoi ? Parce que ça nécessite quand même du temps de mise en place. Les deux personnes qui intervenaient sur cette conférence parlaient d'à peu près 10-15 heures de mise en place de la solution, sans compter le coût de l'outil, les honoraires de gestion, etc. Enfin, tu vois, c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt pour les boîtes qui font du e-commerce. Puis après, une fois que c'est en place, il faut le maintenir, ce système. Il faut s'assurer que toutes les données remontent bien chaque mois, parce qu'il y a des évolutions techniques, juridiques, etc. Donc, une fois que tu as fait la mise en place, tu as aussi un coût de maintenance. C'est pour ça que je pense que c'est pas pour tout le monde, cette solution-là. Mais par contre, si vous êtes dans une boîte qui fait que du e-commerce, je pense que ça vaut le coup vraiment de se poser la question. Voilà. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'entre ces deux solutions d'analyse, Matomo, c'est un peu plus simple, le server-side, c'est plus poussé. Dans les deux cas, on se rend compte quand même que la mesure, elle devient quand même un peu technique. Donc, il y a quelques années, tout le monde disait « Ouais, on peut tout mesurer sur Internet. » Alors, c'est vrai, on peut tout mesurer, mais ça devient quand même assez compliqué de le mettre en œuvre, ce système. Donc, je pense qu'une des conclusions aussi de cet échange, c'est oui, on peut tout mesurer, mais la mesure n'est pas accessible à tout le monde.
Oui.
Voilà. Donc, parfois, il faut accepter d'être aveugle. On a un client, là, qui n'a pas voulu migrer sur Matomo. Il n'y a plus du tout d'outils d'analyse sur son site web. Et puis, ben, on fait de la pub sur LinkedIn pour lui. Ben, du coup, on n'a quasiment pas de conversion qui remonte, alors que lui, il envoie, hein, quand il reçoit des formulaires. Ben, il me dit, ben, c'est pas grave, je suis un peu aveugle, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Tant pis, j'accepte.
Ouais, ça me va.
Ça me va. De toute façon, moi, au niveau de mon CA, je m'y retrouve. Je ne peux pas dire que les gens qui me contact, c'est grâce à la pub LinkedIn ou à mes posts LinkedIn ou à ce que je fais à côté. Mais par contre, je sens quand je leur pose la question qu'ils m'ont déjà vu sur LinkedIn, donc ça me va bien. Mais je suis aveugle. Je peux pas mesurer précisément tout ce qui est lié à mes actions réseaux sociaux. Donc voilà, il va y avoir aussi des marques qui vont accepter d'être aveugles. Et je pense que bah il faut un peu, tu vois, lâcher prise, quoi. Dire bon bah ok, on accepte de pas arriver à tout bien mesurer.
Ok. Et alors du coup, pour un social media manager qui ne sait pas trop comment s'y prendre, est-ce que tu aurais un conseil pour lui mettre le pied à l'étrier.
Bon, bah déjà, le premier truc, c'est se poser la question de faut-il vraiment que je mesure tout ? Est-ce que, tu vois, ça revient à ce qu'on disait juste avant, est-ce que c'est critique pour ce que je fais ? Est-ce que je suis capable de sensibiliser mon manager ou ma manager au fait que la mesure de la performance et du tracking est tellement complexe qu'aujourd'hui, ça nécessite presque une personne à part entière ? Donc, si c'est pas critique, faut-il que vraiment on se casse les dents à le faire ? Je pense que c'est le premier conseil. Si c'est pas trop critique, mais que c'est quand même important d'avoir un peu de données pour piloter ses actions marketing, je dirais que ça peut valoir le coup, déjà, pour améliorer le ciblage, de faire plutôt des contenus on-platform, donc tu vois, des contenus, vraiment des vidéos, des carousels, etc., qui se consomment directement sur les réseaux sociaux pour après faire des audiences de reciblage sur les personnes qui ont consommé ce contenu et des audiences similaires aussi de personnes qui leur ressemblent, plutôt que de faire ça avec les données du site web. Et je veux aussi améliorer mes campagnes, je vais faire un peu plus d'audience démographique dont on a parlé. Si je travaille dans une boîte où il y a un service qui est capable de m'installer une solution comme Matomo, bah pareil, je pense que ça peut valoir le coup, comme ça, de plutôt regarder la donnée dans Matomo. Donc ça, c'est si c'est pas trop critique, mais que c'est quand même important d'avoir un peu de données, d'améliorer les performances de ces campagnes. Donc, on-platform, ciblage démo, installation d'un outil d'analytics comme Matomo. Et si c'est ultra critique, voilà, je pense qu'il faut vraiment envisager le passage au server-side, parce que je pense que c'est plus que nécessaire pour optimiser les performances de ces publicités. Donc il y a un peu trois niveaux, quoi, en fonction de la criticité, de la performance des campagnes et de l'enjeu qui est lié à la mesure de la performance.
Ok.
Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour une personne qui débute.
Ça marche. Est-ce que tu penses qu'on a fait un peu le tour du sujet ?
Je pense qu'on a fait un bon tour.
Ok. Et bah, du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap de vraiment ce qu'on doit retenir ?
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les cookies tiers, de toute façon, à un moment donné, ils vont disparaître. Ils sont déjà mis à mal avec le fait qu'on doit avoir un consentement explicite. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près un utilisateur sur deux qui les accepte. On a déjà des données parcellaires et de toute façon, ils vont disparaître à terme. Donc, on fait le deuil de ça. Pour faire le deuil, bah, du coup, il faut se poser des questions sur comment on va améliorer ses campagnes. Pour ça, on a parlé le on-platform, le ciblage des mots, remonter d'une position dans le tunnel. Et se poser aussi la question de comment on va mesurer l'efficacité de ces actions. Est-ce qu'on le mesure dans la régie sociale ? Bah, c'est plutôt quand c'est critique comme un e-commerce, dans ce cas, il faut passer au server-side. Est-ce qu'on le mesure directement avec son outil d'analyse web, si c'est un peu moins critique, mais qu'on a besoin de suivre un peu voilà, le nombre de personnes qui remplissent un formulaire, qui demandent un avis, etc. Je pense que c'est un bon point de commencer par ça, si l'enjeu n'est pas non plus très critique.
Ok.
Voilà, mais surtout, ne pas trop prendre peur avec ce sujet, et bien garder à l'esprit que si vous parlez avec des personnes, que ce soit des agences social media ou même des agences web ou des agences social ads, peu importe, ou même des freelances, si vous sentez que la personne en face de vous, elle n'est pas hyper à l'aise avec le sujet, ne prenez pas peur. En fait, c'est normal. C'est tellement nouveau pour tout le monde et c'est tellement technique qu'en fait, c'est hyper compliqué, même quand on a compris, de bien l'expliquer, donc d'être à l'aise avec le sujet. Et souvent, on a tendance à dire, toi, un ou une experte qui semble pas très à l'aise pour expliquer quelque chose, ça peut faire peur. Là, j'ai tendance à dire que c'était tellement pointu, et en plus, on est toujours en train de marcher sur des œufs avec les évolutions techniques, que là, pour le coup, c'est à peu près normal. Voilà, donc, on dépassionne le truc. Si on n'est pas à l'aise, c'est pas grave, c'est normal. Le but, c'est d'arriver à comprendre au moins les incidences.
Oui. Ça marche. Et bah, top.
Voilà, j'espère que t'as appris des choses.
Oui, et puis du coup, on vous laissera nous dire si du coup Brian a réussi à rendre le sujet un peu plus funky.
Ouais, alors c'est pas toujours facile. Honnêtement, quand des clients nous posent la question, c'est en général, au bout de deux minutes, je les sens un peu décrochés, donc... voilà, faut trouver les bons exemples des fois.
Ouais, c'est sûr. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
Ouais, ouais. Ça sera avec un invité, je crois.
Ce sera avec un invité, ouais, le prochain. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, le prochain, tous les deux, ben, ce sera début 2024.
Ah, déjà. Ouais. Eh ben, j'ai hâte.
Ça passe trop vite.
Ouais, c'est ça.
Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à tout le monde.
Ouais.
Et puis, ben, bonne fin de journée.
Ouais, et puis bonne rentrée.
Bah ouais, bonne rentrée à tous.
Salut.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Nous sommes partout sous le nom Agence Ouest Digital. Et enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.